Mémoire vive, présentée par Eve Cheptel et préparée par Rachel Rimer, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah pour RCJ. Le camp des familles de Birkenau, un ghetto au sein d'Auschwitz, destiné à tromper la Croix-Rouge, est un épisode peu connu de l'histoire de la Shoah. Raoul Hilberg n'en dit à peu près rien dans la destruction des Juifs d'Europe. Mais voici que, en l'espace de 2 mois, 2 livres sont sortis en France, écrits par des survivants de ce camp. Nous avons consacré au premier une émission il y a quelques semaines. Il s'agit de Paysages de la métropole de la mort, de Otto Dovkulka. Nous allons évoquer aujourd'hui un deuxième ouvrage qui traite de cet épisode, un roman cette fois, Le mur, de Lisa Pomnenka de Otto Kraus, paru aux éditions L'Arachnéen avec le soutien de la Fondation. Avec nous pour en parler aujourd'hui, l'historienne Catherine Cocchio, bonjour, qui a consacré un essai historique et littéraire à cette expérience qu'elle remet en perspective, essai qui s'intitule « Le leurre et l'espoir » de Theresienstadt au bloc des enfants de Birkenau. Catherine Cocchio, pouvez-vous nous éclairer sur le titre de ce roman, Le mur, de Lisa Pomnenka?
Alors en fait, Lisa Pomnenka est un des personnages fictionnels, puisque c'est une fiction inspirée évidemment d'une expérience réelle, un des personnages, elle aussi inspirée de personnes réelles. Il y a eu 2 jeunes femmes, jeunes filles plutôt, qui ont, dans ce bloc des enfants de Birkenau, peint le mur du bloc de figures, de dessins animés, de romans d'aventure ou simplement de paysages, afin de protéger en quelque sorte les enfants de la pensée de leur sort, hein, prochain. Et donc le roman est en partie centré autour de ce personnage, de Lisa Pomnenka, dont le héros tombe presque amoureux, je dirais. Il y a un début, une naissance d'un amour. Mais ce qui compte, c'est la symbolique du geste de Lisa. Donc cette toute jeune fille qui, chaque jour, sans discourir, recouvre ce mur de dessins et qui représente en quelque sorte une fenêtre sur l'extérieur, un extérieur qui ne pourra plus exister pour ces jeunes et ces enfants, mais qui participe de cet îlot qu'ont voulu essayer de créer les éducateurs, les madrichim, qui tentaient de s'occuper toujours, non pas seulement de ces enfants, de leur corps, mais de leur esprit. Donc en organisant des activités culturelles, un enseignement, des rudiments d'enseignement et des activités toujours artistiques, des spectacles, des jeux de marionnettes. Donc ça fait partie, si vous voulez, du rôle donné à l'art, à l'acte artistique, au geste artistique, je dirais même, pas tellement l'œuvre, mais le geste, dans le roman. Hein. Et c'est aussi une activité qui s'exprime à travers les concours de poésie qu'organise le héros Alex Eren avec les enfants dont il a la charge au bloc.
On va revenir sur cette importance de l'art un peu plus loin. Qui est l'auteur, Otto Kraus?
Alors on dit Otto B. Kraus. Au départ, il est né Otto Kraus ou Otta Kraus à Prague, hein, au début des années 1920. C'est dans une famille juive aisée, de commerçants assimilés, mais la mère avait été éduquée dans une école juive. Il a fait des études de philosophie à l'université Charles de Prague. Il était sous l'effet de l'antisémitisme croissant en Tchécoslovaquie. Il a évolué vers une forme de sionisme socialiste, sionisme de gauche. Voilà, il était un des 2 enfants de cette famille aisée, donc, et qui s'est retrouvé à Theresienstadt en 1942. Et il fait donc partie du convoi de décembre 1943, qui contenait 5007 juifs de Theresienstadt qui ont été envoyés à Birkenau. C'était le 2e convoi. Et donc il a vécu les derniers mois de ce camp des familles. Il a été affecté au Kinderblock dans cette période qui a succédé à la disparition de Freddy Hirsch, qui avait créé le bloc des enfants en octobre 1943.
Alors peut-être que c'est l'occasion justement de revenir sur l'origine de ce camp. Donc sur le sort des Juifs de Bohême-Moravie et du Reich plus généralement, et le ghetto de Theresienstadt qui en est l'origine en fait.
C'est ce que j'essaye d'éclairer dans le gros essai. Alors, je suis pas historienne, c'est en effet quand même un essai historique et littéraire, hein, où je donne à la fois des clés pour comprendre le roman, puisque c'est une fiction, donc la lecture en est délicate, et il me semblait très important de donner beaucoup d'éléments historiques, factuels, pour arriver à voir de quoi était nourrie cette fiction. Donc je reviens bien sûr sur la création de Theresienstadt, ce qui s'est déroulé à Theresienstadt en grande partie sous l'impulsion des mouvements Eralutz, des mouvements pionniers sionistes, hein, qui encadraient en partie la jeunesse là déjà à Theresienstadt. Je reviens sur cette vie culturelle, éducative, artistique qui s'est menée tout à fait exceptionnelle à Theresienstadt.
Et la fonction aussi de Theresienstadt.
Alors la fonction de Theresienstadt était une fonction au départ, c'était un camp de transit, ça a d'abord été dans la petite forteresse, hein, un lieu d'enfermement politique, et puis à partir de 1941, il y a eu dans la grande forteresse l'organisation d'un camp de transit pour les camps d'extermination. Mais on en a fait un camp vitrine, ce qu'on appelle un camp vitrine ou un ghetto vitrine, hein, une pseudo-ville offerte par le Führer aux Juifs, pour reprendre le film, hein, de propagande nazie qui a été tourné à l'été 44. Donc ce camp vitrine a été organisé, embelli, à partir de la fin 1943, pour rendre possible une visite, hein, puisqu'elle était demandée par la Croix-Rouge depuis plusieurs mois, une visite d'un camp ou de plusieurs camps. Et donc on a décidé, hein, que la visite de Eichmann a décidé que la visite de Theresienstadt devait pouvoir se faire rapidement. Elle s'est faite en juin 1944, et l'organisation, enfin la création d'un camp à l'intérieur de Birkenau, c'est-à-dire ce camp des familles, était destiné aussi à rendre possible une visite éventuelle à Birkenau même. Mais la visite ayant eu lieu en juin 1944 à Theresienstadt, n'ayant pas abouti à la demande d'en voir plus, hein, la visite à Auschwitz-Birkenau n'a pas eu lieu. La liquidation donc du camp des familles a eu lieu très très vite ensuite, hein, puisqu'il se révélait désormais inutile. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai appelé cet essai l'heure et l'espoir. Hein, voilà, tout a été liquidé en juillet 44.
Donc le camp des familles, c'est septembre 43, avec l'arrivée des premiers transports de Theresienstadt.
Un grand transport de près de 3800 juifs tchèques qui venaient de Theresienstadt.
Jusqu'à juillet 1944.
Oui, il y a eu deux autres convois ensuite. Un en décembre 1943, je l'appelle le grand, mais il n'est pas. Parce qu'en fait, c'est celui dont faisait partie Otto Krauss, et puis un dernier en mai 1944. Et donc, il y a eu une première liquidation. Hein, le premier convoi de septembre a été liquidé en mars 1944. Et la liquidation totale du camp des familles s'est faite en juillet 1944. En fait, les gens étaient envoyés là-bas pour survivre simplement sur une période de 6 mois, hein, au terme de laquelle ils devaient être remplacés par le convoi suivant.
Voilà. C'est ce qui fait la particularité de ce camp, puisque les encadrants du bloc des enfants, on va en parler tout de suite, savaient vraiment que le camp était voué à l'extermination. En fait.
Ceux du deuxième convoi le savaient, ceux du premier convoi ne le savaient pas forcément, mais ceux du second convoi l'ont compris. Et les éducateurs, en effet, essayaient de protéger les enfants contre cette pensée-là, mais ils se rendaient compte, et on en a plusieurs témoignages, que les enfants comprenaient parfaitement ce qui les attendait.
Alors, Rudolf Verpa, que vous citez, là, l'auteur de « Comment je me suis évadé d'Auschwitz », peut-être nos auditeurs connaissent, fait part de l'étonnement des déportés quand ils voient ces familles arriver en vêtements civils, elles ne sont pas rasées, les enfants ont leurs peluches, etc. Même au sein du camp d'Auschwitz, c'était vraiment quelque chose de singulier et presque d'irréel, en fait, ce camp des familles. Est-ce que vous pouvez nous le décrire un petit peu ?
Oui, c'était très saisissant pour quelqu'un comme Rudolf Urba, qui était, alors lui, secrétaire au camp de quarantaine, qui était juste voisin du camp des familles tchèques. Et en effet, ce moment-là, dans son témoignage, est tout à fait saisissant. Hein. Ils arrivaient, autorisés à rester tels qu'ils étaient, enfin, je veux dire, avec leurs cheveux, hein, et pour une part avec leurs vêtements. Hein, enfin, ça dépendait des convois, en fait. Et donc, les familles étaient laissées ensemble, hein, bien qu'il y ait eu donc cette politique de rassembler les enfants dans la journée, dans ce bloc des enfants, hein, alors à la fois pour gérer, pour contrôler plus facilement les choses, hein, c'est ce que Fred et Hirsch avaient proposé aux Allemands, mais aussi pour les jeunes éducateurs, pour essayer d'entourer, d'encadrer et de protéger les enfants. Et donc, il y a eu une vie sociale, c'est ça qui est très, très impressionnant, une véritable vie sociale, très altérée, très abîmée, bien sûr, par cette espèce de terreur sourde, hein, qui animait tout le monde. Et c'est le maintien de cette vie sociale qui constitue à la fois quelque chose de très beau et de très énigmatique, hein, de très difficile à comprendre. Hein. C'est ce que dit d'ailleurs Otto Dovkulka, il réfléchit beaucoup là-dessus dans son propre livre. C'est le maintien à ces extrêmes limites, alors que tous, absolument tous, savaient qu'ils étaient condamnés. Tous ne sont pas morts, mais ils se pensaient tous condamnés, hein, dans les derniers mois, en tout cas, de ce camp des familles. Ils ont presque systématisé, en fait, la pratique des rites, pour certains religieux, mais pour la plupart, c'était simplement des rites sociaux et surtout des rites culturels, hein, et artistiques. Donc il semble que l'art ait joué là une fonction, je dirais, oui, presque rituelle, sans pour autant que l'espoir, hein, les autres formes d'espérance, politiques en particulier, qu'elles soient sionistes ou marxistes, aient pu, elles, se maintenir. Donc il y a eu une espèce de principe espérance qui s'est maintenu dans le geste à la fois artistique qu'emblématise ce mur à peindre par la jeune fille, et par le maintien de l'art comme activité sociale, donc avec des spectacles, des pièces, un certain humour aussi, un humour noir, particulièrement chez les adolescents. Donc toutes ces formes continuaient d'affirmer quelque chose, hein, qui se transmettent à travers le roman d'Otto Beckhaus, à travers cette réflexion qui passe, hein, par la transposition fictionnelle.
Comme activité sociale et aussi comme expérience de résistance aussi, comme acte de résistance spirituelle et morale. Est-ce que cette expérience historique-là n'éclaire pas d'un autre jour, finalement, l'attitude des victimes, on va dire, juives face aux nazis, la question de la passivité, la question de la résistance
Alors, tout ce qu'on se fait, bien sûr, leur activité comme une forme de résistance, c'était de l'ordre de l'évidence. Et elle avait un caractère politique évident, mais qui n'était même plus nécessaire de formuler. Elle les soudait. Alors, par contre, la question de la passivité ou de la révolte, c'est une vraie question posée par le livre, parce que il y a eu un mouvement clandestin à l'intérieur du camp des familles, hein, voilà, qui comptait simplement une trentaine de personnes. Hein. D'ailleurs, Rudolf Ruba raconte qu'il en a rencontré certains. Ils étaient juste une dizaine, surtout des femmes, dit-il, enfin une majorité de femmes. Il a été saisi par leur caractère, au fond, peu formé, peu mûr, hein, au plan de la lutte politique, mais en même temps qu'il était tout à fait charmé par leur forme d'innocence et leur bonne volonté. Donc il y a eu un désir de résistance, et il y a eu un projet, hein, d'être. Ils ont tenté de s'accrocher, en fait, au mouvement de résistance externe, hein, au camp des familles, hein, qui existait en particulier, encadré par la résistance polonaise. Et puis ça a échoué justement au moment de. C'est ce que raconte, hein, le roman, au départ, lors de la mort de Freddy Hirsch, en fait, lors de la liquidation du premier convoi.
Hein, donc Freddy Hirsch, qui était un des encadrants.
C'était le créateur. Le créateur
même
du bloc des enfants.
Bloc, hein, des enfants à l'intérieur.
Et il avait sous sa charge, en effet, l'ensemble des enfants, qui étaient extrêmement nombreux. Hein, c'est plusieurs centaines, hein, c'est pas quelques dizaines. Voilà. Et donc, il y a eu une tentative de révolte qui a tourné court. Hein. On a voulu hein, entraîner le camp des familles hein, dans ce soulèvement. Et puis, la chose ne s'est pas faite. Hein. Et le roman raconte aussi le désir hein, incarné hein, en partie aussi par le héros hein, de mener à bien une autre révolte, mais qui elle aussi a avorté au moment de la liquidation finale du camp en juillet 44. Hein. La question de la révolte est une question très amère et très difficile.
Et qui hante vraiment
Parce qu'elle est liée, en fait, le renoncement, semble-t-il, de Fred Hirsch, ou en tout cas les hésitations de Fred Hirsch, et ensuite les difficultés de ces jeunes éducateurs à se mobiliser au plan militaire, en fait, sont liées à la présence des enfants. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a une hésitation à exposer les enfants dans ce qui, forcément, aurait un caractère épouvantablement sanglant.
C'est par sens de la responsabilité, en quelque sorte. Verba, il dit à propos de Fred Hirsch, je vous le citais, « Ses yeux reflétaient une intense détresse, la détresse d'un homme encore trop civilisé, et qu'Auschwitz n'avait pas encore réussi à endurcir suffisamment pour prendre une telle décision. » Donc, décision de mettre en danger les enfants, enfin de les...
Je trouve très, très, très belle cette phrase de...
Trop civilisée, d'une certaine façon.
Elle est très vraie, en fait. Alors, ça répète un peu différemment ce qu'il dit des jeunes qu'il a rencontrés hein, et qui s'étaient proposés pour participer à la résistance. Mais oui, il y a en quelque sorte un excès de civilisation. Enfin, il faudrait préciser le sens du mot civilisation, mais c'est bien de ça précisément que parle le roman. Hein. C'est ce sur quoi il nous demande de réfléchir aussi sur la question, la fonction de l'art, la fonction du jeu, les limites hein, de l'activité de jeu chez les enfants.
Oui, le leurre dans le leurre, ce que vous appelez le leurre dans le leurre. Puisque eux-mêmes, finalement, se sont pris aussi au propre piège, enfin, en pensant que... ils ont conservé un mince espoir, en fait. Le leurre un mince espoir de survivre, en fait, finalement. Puisqu'ils étaient traités différemment.
Oui, au départ, mais justement, ce que j'essaie de montrer, c'est que l'espoir hein, qui perdure à la manière d'une espèce d'étoile énigmatique, hein, c'est l'image qu'utilise constamment Otto Kraus, cet espoir, il s'est en quelque sorte transformé en une forme d'affirmation sans projection dans l'avenir. Mm-hmm. C'est ça qui est très, très particulier dans cette expérience-là, qu'on ne trouve
autant
pas en fait
présent.
Ailleurs. Hein, parce que ça a duré plusieurs mois. De cette vie sociale hein, qui partout ailleurs était totalement impossible en fait, même dans les ghettos c'était pas possible, en tout cas sous ces formes-là. Donc là, c'est justement sur cette question de l'espoir hein, que véritablement porte le roman, et c'est là-dessus que j'ai essayé moi-même de réfléchir en évoquant aussi d'autres témoignages assez nombreux hein, ceux de Ruth Kluger par exemple qui évoque aussi beaucoup cette question des limites de l'espoir.
Ce livre nous en apprend aussi beaucoup sur les conditions d'existence des enfants à Auschwitz. Alors, vous avez déjà consacré une anthologie à ce sujet avec Aurélie Kaliski qui s'appelle « L'enfant et le génocide ». Un des personnages marquants du roman, c'est le jeune Adam Landau, qui est un enfant très dur, cynique, qui ne reconnaît pas l'autorité des adultes et qui est un pied-pelle, on appelle ça. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ces enfants ? Lui et les autres.
Le Pipel, c'est un personnage qui est une espèce de bon à tout faire, de commis, de petit esclave, mais privilégié en fait. Hein. Et là, Adam Landau, ce personnage d'enfant sauvage pratiquement, hein, qui devient le plus cher au cœur d'Alex et Ren, et le privilégié, hein, la petite mascotte, en quelque sorte, du capot hein, du bloc. Hein. Donc, ce personnage-là, on le trouve, c'est un des types hein, qu'on trouve ailleurs, hein, bien sûr, à l'intérieur d'Auschwitz-Birkenau, et d'autres camps d'ailleurs. Hein, mais en effet, le livre ne donne pas seulement un éclairage sur le camp des familles et en particulier le bloc des enfants, puisqu'il fait voir d'autres enfants dont on nous dit qu'ils sont là depuis longtemps, qu'ils ont passé pour certains même 3 ans dans des camps. On ne sait pas très bien où en fait. Hein. Et donc le texte nous montre aussi que le sort fait aux enfants dans ce bloc des enfants était une exception, hein, parce que c'est très important de le rappeler. Et lorsque j'essaye de montrer aussi dans mon essai qui accompagne le roman, c'est à quel point donc quelle a été en quelque sorte la politique nazie en ce qui concerne la présence des enfants au camp, et en particulier à Auschwitz-Birkenau, où curieusement, précisément au moment où ce camp a été créé en 43, on commençait par ailleurs de rendre possible, enfin d'autoriser les enfants à vivre à l'intérieur d'Auschwitz-Birkenau par ailleurs. Il y a eu beaucoup d'enfants à partir de 1943 à Birkenau, alors qu'il n'y en avait pas ou très peu avant. Donc ça, c'est quelque chose de très particulier aussi du fait qu'arrivaient les très jeunes opposants du monde du RSS et ceux de Varsovie. Donc là, il y a eu une présence quantitative d'enfants très anormale jusque-là, qui s'est maintenue jusqu'à la fin.
Pour finir, je voudrais que vous nous éclairiez sur le choix de la fiction pour raconter cette expérience. Parce qu'on se demande si un récit historique n'aurait pas été préférable, parce qu'elle est tellement incroyable d'une certaine façon. Est-ce que vous comprenez ce choix de Otto Beckrand?
C'est un choix d'écrivain. Il se voulait écrivain. Son premier texte, Terre sans Dieu, était déjà aussi une fiction, une espèce d'allégorie sur la disparition de Dieu et la présence du mal. Elle peut être discutée, ce choix peut être discuté, mais il donne lieu à une forme intéressante d'exploration des âmes, au fond, puisque c'est ça qui l'intéresse, c'est pas seulement le récit des faits.
Les âmes, des conflits.
Voilà, les doutes, les dissensions, les conflits internes même à chaque individu, les hésitations.
Les débats idéologiques.
Voilà, et pas seulement les conversations, mais les conversations intérieures de chacun des personnages. C'est ça l'intérêt de ce livre, qui offre véritablement une véritable complexité. Les personnages sont assez mouvants, assez ambigus, chacun, même s'il y a parfois des types assez marqués. Il y a l'éducateur, le nihiliste, le communiste, le sioniste. Mais chacun évolue précisément au contact des autres.
Alors, je rappelle que vous avez publié donc un essai accompagnant le livre Le Mur de Lisa Pomnenka, un roman dont je recommande la lecture, qui est un très beau roman, très bien écrit. C'était Mémoire vive. Deux adresses pour nous retrouver, www.radio-rcj.info. www.mémoirevive.net. À dimanche prochain.